Ce budget est un budget historique. La France, pour sa justice, n'a pas eu un budget de cette nature depuis plus de 25 ans.
Nous allons augmenter le budget de la justice de 8%.
La force de ce tribunal, c'est d'avoir, je dirais, une proximité, une humanité. Et aujourd'hui, on nous dit, bah, écoutez, c'est simple, vous allez être rayé de la carte.
On ne distingue même plus la greffière derrière ces piles de dossiers.
Il y en a sur le bureau, il y en a sous le bureau, il y en a derrière ma chaise, devant le bureau. Les dossiers sont tellement nombreux qu'on n'a plus de place pour les ranger et qu'on est obligé de les entasser tout autour de nous.
Ce plan est un plan historique. Notre ambition, vous l'avez compris, c'est de réduire les délais.
C'est pas normal que des délais soient si longs, c'est tout. C'est quand même une angoisse pendant un an de savoir comment ça va se passer, quoi.
Le tribunal, mesdames et messieurs, veuillez vous lever, s'il vous plaît.
1 300 000, c'est le nombre de dossiers, d'après le ministère de la Justice, qui sont en attente d'être jugés sur les étagères des tribunaux français. Alors, cette situation n'est pas nouvelle, même si elle a empiré depuis un an avec l'épidémie. Mais toi, Jean-Michel Dumais, tu as fait le tour de quelques tribunaux en France. Et ce que te raconte le personnel judiciaire, c'est que l'accumulation de dossiers devient tellement énorme que le système est sur le point de craquer. Et les syndicats en particulier sont très alarmistes. Alors c'est leur boulot d'être alarmistes, mais là, ce que tu décris dans ton papier du Monde diplomatique, ça a l'air quand même assez grave. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le problème? Pourquoi les piles de dossiers s'entassent-elles dans les palais de justice en France?
Alors oui, moi d'abord, je n'ai pas rencontré que les syndicats. J'ai rencontré aussi des magistrats, j'allais dire dans l'ombre du système, dans le système, qui subissent des contraintes de gestion des flux des dossiers. Parce que le problème, c'est qu'en gros, chaque année, il rentre à peu près autant de dossiers qu'il en sort. Et ce qui, pour moi, était marquant en approchant le système de près, c'est de voir à quel point, aujourd'hui, il semble que la gestion des flux, des stocks, on est vraiment sur du langage managérial, comme dans une entreprise, a pris le pas sur l'acte de juger. En gros, la préoccupation dans les juridictions, c'est qu'il n'y ait pas de blocage dans les flux et qu'on puisse mordre sur les stocks. On puisse, hein, tu as cité des chiffres assez impressionnants, hein, la justice rend chaque année 2 250 000 décisions civiles, au civil. La justice civile, c'est les litiges entre les personnes, pour faire simple, grosso modo, ou les entreprises et les personnes. Et la justice pénale, elle brasse encore plus d'affaires, 4 millions en gros chaque année, dont 1 300 000 qui sont poursuivables. Et donc, cette masse de dossiers, que ce soit au pénal ou au civil, elle doit être digérée par l'institution judiciaire. Et il se trouve que, bon, ben, du fait, mais c'est pas neuf, hein, c'est historiquement, les dossiers se sont accumulés. Et quand on pousse les portes, par exemple, moi j'ai été à Soissons, dans une petite juridiction, petit tribunal, on s'aperçoit qu'un juge des affaires familiales, ben, il a sous son nez 700 dossiers, que le juge de l'application des peines, c'est 800 mesures qui sont en cours et c'est 1400 décisions à prendre chaque année pour un juge, que le juge pour enfants, c'est 800 mesures de suivi de jeunes en difficulté. Enfin, c'est énormément de décisions. Et quand on le ramène à leur quotidien, les juges disent très exactement, bah, par exemple, moi, ça me fait concrètement 5 jeunes à recevoir, pour un juge pour enfants, 5 jeunes à recevoir dans la matinée. C'est 5 dossiers où tout est urgent, tout est grave. L'après-midi, il faut que je prépare mon audience du lendemain. Enfin, quand on rentre dans le détail de l'activité judiciaire, on se rend compte que tout ce monde-là vit une pression intense qui est liée à la gestion des flux.
Mais cette accumulation de dossiers, du coup, fait que la justice est mal rendue. Parce que tu décrivais des situations urgentes, des dossiers qui vont traîner pendant plusieurs mois, c'est potentiellement des situations compliquées, voire dangereuses dans les cas de garde d'enfants, de séparation, de licenciement abusif. Enfin, c'est que des situations où plus on attend, plus ça met des gens en difficulté.
Voilà. Et ça, les magistrats, ceux que j'ai rencontrés en tous les cas, sont conscients de l'enjeu qu'il y a. Dans chaque dossier, il y a un enjeu très important. Tu parles des situations de famille. C'est clair que la fixation d'une pension alimentaire ou l'organisation du droit de garde, des choses comme ça, les gens, évidemment, pour eux, c'est très important. Un divorce, c'est une étape dans une vie personnel. Donc les magistrats, eux, de leur côté, ils ont bien sûr conscience de ça. Mais comme en même temps, ils sont pris par la pendule, si je puis dire, le timing, le fait qu'il faut absolument que les dossiers soient, dans certains cas, on dit évacués. Enfin, le mot est assez terrible. C'est-à-dire que la préoccupation, c'est la gestion du flux et moins la qualité de la décision qui va être rendue.
Du coup, ce qui affecte considérablement le personnel judiciaire, c'est de plus pouvoir bien faire son boulot. Et la situation que tu décris rappelle ce qu'ont connu d'autres services publics. On pense aux hôpitaux, aux EHPAD, à l'éducation nationale, ou à la Poste, à France Télécom, où les personnels sont soumis à des objectifs de management, de gestion qui fait qu'ils se sentent mal parce qu'ils ne peuvent plus bien faire leur boulot.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que souvent, j'ai entendu dans la bouche de juges le parallèle qui était fait avec notamment les structures hospitalières. C'est clair, on est comme à l'hôpital, en gros. D'ailleurs, la première présidente de la Cour de cassation, Madame Arins, Chantal Arins, c'est la plus haut placée dans la hiérarchie judiciaire. Il y avait eu un entretien, l'été dernier, en août 2020, où elle disait « Nous ne sommes plus un service essentiel de l'État ». Elle le faisait le constat à la suite de l'épidémie, parce que l'épidémie a mis en veilleuse, pendant 2 mois, les tribunaux qui ont été fermés, juste les affaires essentielles, les contentieux essentiels étaient traités. Mais l'institution a été mise en veilleuse. Les magistrats ou les personnels de justice demandaient à être traités pour la garde de leurs enfants. C'est une fonction très féminisée, la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a concrètement 68% des magistrats qui sont des magistrates.
Et donc, pendant les confinements, le personnel judiciaire demandait à pouvoir faire garder ses enfants comme le personnel hospitalier.
Et il n'était pas considéré comme prioritaire. Et donc, ils ont vécu, franchement, avec le Covid, une sensation importante il y en a beaucoup qui font état d'un sentiment de déclassement. Mais tu faisais référence à France Télécom, par exemple. Parfois, c'est étonnant, la mise en abîme. C'est-à-dire que eux-mêmes, ces magistrats, font référence. C'est fou, on est obligé de juger des affaires comme celle de France Télécom, avec des problèmes de risques psychosociaux, du harcèlement. Mais nous-mêmes, dans notre structure, on commence à subir ça. Il y a des syndicats qui ont ouvert très clairement, il y a des chargés de mission qui s'occupent des RPS, les risques psychosociaux. C'est une thématique qui émerge dans la magistrature. Les greffiers, parce que là, je parle beaucoup des magistrats, mais autour du juge, il y a tout un tas de professions, notamment les greffiers, qui les assistent, qui authentifient les procédures, et qui, lorsqu'ils découvrent le métier, sont soumis à encore une fois, à cette pression, cette logique gestionnaire. Alors, il y en a beaucoup qui refusent la justice, c'est pas... Qu'est-ce que c'est, la justice? Est-ce que c'est un service public? Est-ce que c'est un pouvoir? En France, ça n'est, selon la Constitution, c'est une autorité qui est indépendante. C'est-à-dire que chaque juge, on lui garantit son indépendance juridictionnelle. Mmh. Mais budgétairement, en France, la justice, elle est complètement pilotée par l'État, par le pouvoir politique. C'est eux qui donnent l'argent. Aujourd'hui, on est dans une situation assez terrible. Quand on regarde les comparaisons internationales, on s'aperçoit très concrètement que là où la France met 69,50 € par habitant... pour sa justice, l'Allemagne, avec laquelle on peut éventuellement le comparer, après il faut faire attention aux comparaisons en fonction des systèmes judiciaires, mais enfin en gros on peut se comparer avec l'Allemagne, 69,50 € en 2018 en France, 131 € en Allemagne. On a coutume de dire en gros qu'on est, on a deux fois moins de juges, et deux à trois fois moins de personnel que dans d'autres systèmes judiciaires comparables. Je parlais de Soissons où je suis allé. C'est fou, ils ont supprimé un tribunal d'instance qui se trouve dans une petite ville à côté, Château-Thierry. Mmh. C'est à 40 km. On supprime le tribunal d'instance et on se rend compte que les gens qui n'ont pas de voiture, ils devaient passer par la gare de l'Est à Paris pour repartir sur la gare du Nord. Ils avaient 3h40 de transport
pour aller à Soissons.
Pour aller à Soissons, qui est à 40 km. Voilà, ça c'est typiquement en mesure bureaucratique qui a été prise à un moment donné. Bon. Donc forcément... Dès lors qu'il y a une pression budgétaire pour faire des économies, ne pas trop dépenser, ou rationaliser simplement, ce mot terrible. Mais s'il n'y a pas assez de personnel, c'est clair qu'eux sont soumis à de très très grosses pressions. J'aborde à un moment donné, je parle du parquet. Il y a un tiers des magistrats qui travaillent dans les parquets, les services des procureurs. Ce sont eux qui sont chargés d'engager des poursuites au pénal.
Au nom de l'État.
Au nom du peuple.
Du peuple français.
Voilà. Ou la société, si on veut. Ils représentent là. Voilà. Ils sont chargés de faire appliquer la loi pénale. Et ils ont. Les magistrats français, les parquetiers français qui ont cette tâche-là, sont ceux qui, en Europe, ont le plus de tâches à accomplir. Et en France, ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent, avec la multiplicité des choix, c'est-à-dire qu'en gros, face à une affaire, ils peuvent décider d'un renvoi en correctionnel, d'un passage en comparution immédiate selon une procédure accélérée, mais ils peuvent aussi décider des alternatives aux poursuites, c'est-à-dire rentrer dans des processus de réparation, en disant, toi, tu vas repeindre le portail, tu as tagué, tu vas repeindre le portail. Bon, ça peut être des tiges, ça peut être simplement un rappel à la loi. Enfin bref, il y a tout un éventail de mesures qu'ils peuvent prendre, mais comme ils ne sont pas nombreux, alors là, pour le coup, eux, ils sont 3 à 4 fois moins nombreux que des systèmes judiciaires voisins. Ça leur fait ça les met sous pression. Ils sont pris dans un étau qui est la recherche de l'efficacité budgétaire, d'une part, mais en même temps, évidemment, tous sont soucieux de rendre la justice dans des conditions correctes. Et donc, c'est à quel coût on peut rendre une justice à un coût correct, quoi. Voilà leurs les préoccupations qui se posent à eux. Et outre les problèmes de moyens, qui ne sont pas neufs, on vit dans une époque, et chaque auditeur peut le mesurer, il n'y a pas une journée où on ne parle pas de la justice. Il n'y a pas une journée où un politique va réagir à un fait divers, à une décision de justice. Et cette pression-là, les magistrats la ressentent énormément. C'est-à-dire qu'on est sans cesse en train de remettre sur le métier un ouvrage. C'est-à-dire qu'on veut toujours changer des lois en permanence. Et on arrive à un truc incroyable aujourd'hui, c'est qu'il y a des réformes qui ne peuvent même pas être mises en œuvre. Je pense notamment à la réforme de la justice des mineurs, qui a été adoptée en janvier. Mmh. Toutes les juridictions, enfin, en tous les cas là où je me suis promené, personne n'est préparé pour en termes de gestion des dossiers, de mise d'actualisation. Moi, j'ai rencontré des juges qui me disent « mais j'ai même pas le temps de lire toutes les mesures nouvelles qui me tombent dans mon créneau. Il faut que j'absorbe tout ça. C'est pas possible. » Donc là, concrètement, la justice des mineurs, ça a été adopté en début d'année et ça sera mis en œuvre uniquement en septembre, 6 mois plus tard. Et dans le même temps, Dupond-Moretti arrive avec une volonté de réformer l'application des peines, les réductions automatiques de peines. Enfin bon, il a un projet. Et tout de suite, la première des choses, c'est un premier communiqué de presse que sort l'Association nationale des juges d'application des peines en disant « mais nous ne sommes pas prêts, c'était titré, nous ne sommes pas prêts ». Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, et ce sentiment, ce qui m'a frappé, c'est qu'il est partagé de la base au sommet. Il est partagé à tous les niveaux de la hiérarchie judiciaire, et que ce soit des jeunes ou des magistrats plus anciens, voilà, tout le monde est confronté à cette inflation de réformes, quoi, qui n'en finit pas. Et Dupond-Moretti en rajoute encore dans sa dernière livraison, si je peux dire, puisqu'il y a un projet de loi qui doit être examiné là, dans les jours qui viennent, en mai.
Alors parlons-en, puisque Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, est quand même un bon connaisseur du système judiciaire. Donc,
c'est un bon connaisseur, c'est un bon connaisseur du système pénal, et qui n'est qu'un petit bout de la lorgnette des affaires. La justice civile, encore une fois, les affaires familiales, les tutelles,
les prud'hommes,
les affaires commerciales. C'est Dupond-Moretti, il n'est pas c'est pas son monde. Son monde à lui, c'est le pénal, et en plus, comme c'est un avocat de talent, de renom, son monde à lui, c'est le pénal surmédiatisé.
Ah oui.
Donc c'est un petit bout de la lorgnette, voilà.
Mais pour répondre à l'inquiétude du personnel judiciaire et des magistrats, il a annoncé notamment deux choses. D'une part, encourager la médiation dans les conflits, c'est-à-dire pour favoriser une entente entre les parties pour éviter la case tribunal, ce qui permettrait de désengorger les tribunaux. Et puis, il a annoncé aussi l'embauche très prochaine, très rapide, de 1000 personnes pour justement pouvoir assister les magistrats qui ont beaucoup de boulot. Voilà, ça fait au moins deux choses qui, normalement, devraient satisfaire le personnel judiciaire.
Alors, sur les moyens, il est clair que dans le laps de temps qui lui est imparti, parce qu'il est là comme ministre sur quelques mois, enfin lui, il est là pour la fin de mandat de Macron, mais dans le laps de temps qui est le sien, il va... Alors, c'est lui-même qui avait utilisé l'expression de sucre rapide, de sucre lent. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce vocabulaire culinaire ? Former des magistrats, former des greffiers, ça prend du temps. Il passe par une école, ça prend...
Des années.
Des années, 2-3 ans. C'est long. Donc ça, c'est les sucres lents. Bon. Donc lui, il agit sur les sucres rapides, que sont des emplois contractuels, précaires. Donc moi, j'en ai vu très concrètement quand j'ai été dans des différentes juridictions pour mon enquête. Le problème, c'est que ces contrats, ils sont parfois extrêmement court, c'est sur 3 mois par exemple. Donc il va y avoir un renfort qui va pouvoir traiter des piles de dossiers ou aider des magistrats à préparer des dossiers, mais c'est très très condensé dans le temps. Et en plus, et là les syndicats font leur travail, c'est-à-dire que très concrètement, tu vois débarquer quelqu'un qui est contractuel, il faut le former. Donc tu prends les gens qui sont déjà débordés pour leur dire, maintenant vous allez former ceux qui vont rester que 3 mois. Donc c'est en affichage, c'est très bien. Et c'est sûr qu'on ne va pas dire que c'est pas... Tout le monde dit, les sucres rapides, on prend. Mais il faut reprendre, que disent à la fois Mme Arens, la première présidente de la Cour de cassation, ou François Moulins, qui est le procureur général, qui est bien connu parce qu'il était procureur de Paris au moment des attentats, qui représentent, enfin, qui sont des figures un peu plus connues de la justice. Tout le monde dit qu'en gros, enfin, il faut prendre du temps pour revoir le système de fond en comble. Le problème aujourd'hui, c'est que le temps politique n'est pas du tout adapté au temps judiciaire. Enfin, le temps politique, c'est on est sur un quinquennat, on est sur des réformes tous les 2 ans, surtout quand je dis tous les 2 ans, il y en a tout le temps des réformes. Mais on n'est pas sur une vision globale. Voilà. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que la direction des services judiciaires n'a pas sorti, ça fait plusieurs années qu'on les attend, les outils de gestion qui permettraient de dire, ben, compte tenu du nombre d'affaires qu'on a dans les placards, c'est assez facile de faire le calcul. À Ypsilon près, combien il nous faut de magistrats pour traiter autant d'affaires ? Connaissant, après, il faut minuter, enfin, il faut faire un travail de gestion classique dans les entreprises. Et ben, ce qu'on appelle des référentiels, ça ne sort pas, ils ne sortent pas. Et tous les syndicats sont d'accord pour dire, si ça ne sort pas, c'est juste parce que ça serait catastrophique de dire, par exemple, aujourd'hui, on doit être à 8-9 000 magistrats exerçants, bah, il va peut-être en manquer, j'en sais rien, 4 000. Je ne sais pas si c'est le bon chiffre.
Oui, 4 000 ou 10 000 ou...
Ouais, là, sûrement. Enfin, en tous les cas, si on se rend compte qu'il faut plusieurs milliers de magistrats, on est loin du compte, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... Voilà, il faut... Donc il y a des mesures de pompiers, si je puis dire, qui sont prises, et c'est tant mieux. Mais on ne s'attaque pas à la question de fond qui est, aujourd'hui, très concrètement, il faudrait combien de magistrats, par exemple, pour juger les affaires ? C'est-à-dire qu'il faudrait aussi qu'on revienne sur du qualitatif.
Ouais, c'est ça. Parce que pour parler du temps de la justice, il y a une mesure en trompe-l'œil aussi, c'est d'accélérer les procédures judiciaires. Parce qu'on déplore à juste titre le fait que des décisions de justice prennent des mois, voire des années à être rendues. Donc, spontanément, on aurait envie que ces procédures aillent plus vite.
Aillent vite, oui.
Sauf que, parfois, accélérer le temps judiciaire se fait au détriment de la justice. Il y a des procédures, par exemple les comparutions immédiates, qui vont aller plus vite, mais qui ne vont pas forcément rendre la justice plus juste.
Tu as parfaitement résumé les choses. C'est-à-dire que, non, mais c'est qu'encore une fois, la gestion des flux l'emporte sur le qualitatif. Et ça se... Et le justiciable, lui, quand il va devant le tribunal, il a envie à la fois que son affaire soit traitée dans des délais raisonnables, il a raison, il a le droit, enfin c'est une attente parfaitement légitime, mais il a aussi envie qu'elle soit traitée dans un délai raisonnable et avec l'attention qu'il se doit. Faut que, évidemment, la justice se penche sur le dossier, la bâcle pas, ne traite pas, ne passe pas dessus à la va-vite. Et cette histoire d'opposition entre le qualitatif et le quantitatif, on le retrouve dans l'évaluation des juges. Je leur demandais, mais comment ça se passe ? Parce que ça ressemble tellement, quand on entend même le vocabulaire, hein, on parle de performance des juridictions, on est dans le domaine de la justice, on est sur une vertu, on est sur ou un contre ou un pouvoir, enfin on est... Moi ça me fait bizarre de parler de la performance d'une juridiction. Mais bon, bref, toutes ces notions-là, ça se retrouve dans l'évaluation des juges, qui se fait souvent, on ne va pas les évaluer sur la qualité de leur jugement, on va les évaluer sur leur capacité...
À traiter un dossier vite.
À traiter une pile de dossiers. Regardez s'ils prennent pas, si ceux, comme m'a dit un des juges, quand on commence à déraper dans une audience, ils ont, par exemple, mettons, sur une matinée, ils vont traiter 30 dossiers. Et le juge en question me disait, mais si je regarde ma montre, et si quelqu'un commence à poser une question et à me bloquer, c'est comme le surendettement. Je vais être noyé par mon timing, je vais pas pouvoir, et du coup, elle va pas pouvoir consacrer l'attention qu'il faudrait à chacun des dossiers, en tous les cas, tel que cela le mériterait.
Un autre exemple d'effet pervers quand on cherche à désengorger les tribunaux, c'est les prud'hommes. Macron a réformé les prud'hommes en 2017. Alors les prud'hommes, c'est les juridictions qui s'occupent des conflits au travail. Et suite à la réforme de Macron, le nombre d'affaires aux prud'hommes a baissé drastiquement.
Oui.
Sauf qu'on s'est rendu compte que, en fait, la procédure pour saisir les prud'hommes s'était tellement complexifiée que les salariés qui étaient victimes d'abus au travail ne saisissaient plus la justice prud'homale parce que c'était trop compliqué.
Oui, alors ça, c'est une réflexion d'ailleurs, j'allais dire qui a été authentifiée, enfin en tous les cas par une magistrate à la cour d'appel de Versailles, qui a fait cette observation-là. C'est-à-dire que c'est vrai, par exemple, pour être très concret, on a développé des procédures de rupture conventionnelle. C'est-à-dire où une entreprise va se mettre d'accord avec son salarié pour organiser la séparation. Bon. Alors, on pourrait y voir un aspect positif. Maintenant, après, on sait bien, c'est toujours le pot de fer contre le pot de terre. C'est-à-dire que dans ces discussions sur des ruptures conventionnelles, est-ce qu'on est à armes égales ? Voilà, c'est pas forcément le truc. Donc, les ruptures conventionnelles se sont quand même multipliées, parce que aller en justice, ça peut être aussi, d'abord, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est pas simple, ça peut être très prise de tête. Et donc, du coup, l'observation qui est faite dans le système, c'est que, certes, on a diminué le nombre de dossiers qui sont en instance, mais la magistrate que je citais de la Cour d'appel de Versailles relevait aussi que, dans les dossiers, elle y voyait beaucoup plus de cadres en proportion que d'ouvriers ou d'employés, maintenant, qui vont jusqu'en appel, parce que ça coûte cher d'avoir un avocat spécialisé, compétent, voilà. Même si on a un système d'aide juridictionnelle en France qui est envié par rapport à d'autres pays, mais enfin, globalement, aujourd'hui, enfin, c'est un coût. Aller en justice, c'est toujours un coût. Voilà. Donc, il y a cette observation que, quand ton portefeuille est bien rempli, tu peux organiser ta défense, mieux te défendre, et puis peut-être aussi avoir du temps, quoi, parce que ça prend du temps d'aller jusqu'en appel, voire en cassation.
Eh ben, merci Jean-Michel. Tu veux ajouter quelque chose pour conclure ?
Peut-être une chose qui m'est aussi apparue au cours de l'enquête. Les magistrats trouvent, enfin ceux que j'ai rencontrés trouvent que voilà, la justice est mal connue, quoi. Et ils se sentent beaucoup sous la pression des commentaires des décisions de justice. On le voit, l'affaire Sarkozy, l'affaire Sarah Halimi, enfin, ou Viry-Châtillon, enfin, dès qu'il y a des affaires, c'est commenté.
Et on critique le laxisme de la justice, ouais, l'incompétence des juges, et tout le monde y va de son commentaire.
Exactement. Bon. Il y a un problème de connexion entre la société et sa justice aujourd'hui. On parle beaucoup dans les programmes d'éducation morale et civique, au collège, lycée, des libertés individuelles, des droits. On évoque cette question-là, des droits, des libertés. Mais la manière dont la justice est rendue, comment s'organise, d'abord, par exemple, c'est quoi l'ordre judiciaire, c'est quoi l'ordre administratif, puisqu'on a une justice administrative qui, elle, d'ailleurs, sur le plan budgétaire, est autonome. Ça fonctionne. L'État ne met pas... C'est le Conseil d'État qui gère ça. Donc, cette connaissance du milieu judiciaire, elle manque. C'est toujours extrêmement riche, puisque moi, je trouve que par des activités annexes, il m'arrive d'emmener des jeunes voir des comparutions immédiates. C'est incroyablement riche d'organiser des visites dans les tribunaux et de discuter ensuite de la justice, de la manière dont elle est rendue, de rappeler que la justice a une mission de pacification au départ. On a complètement oublié, mais enfin, jadis, la grande figure du juge, c'était le juge de paix. Pour les petites affaires, on venait, tu vois, localement. Il y a un grand besoin de proximité dans la justice. Déjà, il faudrait retisser un peu de lien entre la justice et la société. Je pense que l'école a un rôle à jouer là-dedans.
Et alors là aussi, le garde des Sceaux a la solution à ton problème, puisqu'il a bien conscience qu'il faut rapprocher la justice des citoyens français. Et donc, pour ça, il a l'intention de filmer les audiences. Dans l'idée que, comme tu dis, les Français connaissent mal leur système judiciaire, et donc filmer les procès et les diffuser, ça permettrait aux gens de mieux comprendre comment fonctionne un procès. Et sur le papier, ça a l'air plutôt pas mal comme idée.
Oui, alors, l'objectif qui est de mieux faire connaître la justice, il est très louable, et ça c'est clair. Après, c'est les conditions. Comment ça s'organise? Très concrètement, comment on met les caméras? Où on les met? Je dis ça parce que ça fait appel. Moi, j'ai été longtemps chroniqueur judiciaire pour Le Monde, dans une vie antérieure, et j'ai assisté à des procès qui étaient enregistrés, notamment le procès de Maurice Papon, puisque aujourd'hui, les gros procès historiques peuvent être enregistrés, pour justement des motifs pédagogiques. C'est pour ça que
Oui, pas... des procès dits historiques qui sont filmés pour la
mémoire. Oui, mais même,
mémoire,
même avec des vertus pédagogiques, ça arrive, il y a des autorisations, on a de plus en plus de documentaires qui se font.
Et, le procès de Charlie Hebdo a été filmé récemment, et il y a 25 ans, c'était posé la question de filmer le procès de Papon, et comment filmer le procès de Papon.
Ouais, il y avait une grosse discussion sur comment organiser les temps, les plans de coupe, par exemple, qu'est-ce qui était autorisé, pas autorisé, comment s'organisait la gestion de l'image. C'était pas évident. L'introduction des caméras pose toujours des problèmes. Si c'était généralisé, sans garde-fou ni rien, ça pose un problème sur la sérénité, quoi, de ce qui se passe dans l'enceinte judiciaire. Puis en plus, après, il y a des problèmes de droit à l'oubli inhérent. Voilà, une condamnation à la vocation à un moment donné. Disparaître dans le temps, hein. Chacun a droit à l'oubli. Donc c'est pas simple à mettre en œuvre. Je vois que chez les magistrats, les avis sont, me semblent, partagés. Moi, à titre personnel, je pense que le lien doit être plutôt renoué. Il faut aller dans les tribunaux, quoi. Enfin, l'image, c'est bien, mais c'est encore mieux de se déplacer, de rencontrer dans les journées portes ouvertes ou autres. Il y a des sessions qui sont organisées pour mieux se connaître, quoi.
Une justice au bord de l'implosion, c'est à lire dans le Monde Diplo du mois de mai. Merci Jean-Michel Dumay.
Merci à vous.
Quand ils m'ont jugé, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient de moi. Quand ils m'ont jugé, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Y'avait un homme en rouge qui s'acharnait sur moi, précis comme la poudre et lourd comme la loi. Je ne savais pas que j'étais si violent, que j'étais si violent. Je ne savais pas que j'étais si méchant, que j'étais si méchant. Ouais, mais pour ma défense, un autre a palabré, faisant voler ses manches au vent de ses idées. Je ne savais pas que j'étais si petit, que j'étais si petit. Je ne savais pas que j'étais si gentil, que j'étais si gentil. Je ne suis qu'un homme, rien qu'un homme, et j'ai peur tout seul devant tous ces gens de bien qui étalent au grand jour les secrets de mon cœur et n'y comprennent rien. Messieurs les jurés, ne me jugez pas trop, ne me jugez pas trop. Ah, messieurs les jurés, mettez-vous dans ma peau, mettez-vous dans ma peau. Regardez dans la glace vos têtes d'hommes forts. Vous verrez les grimaces des condamnés à mort. Quand ils sont rentrés, ils ont baissé les yeux, ils ont baissé les yeux. Ils avaient jugé un enfant du bon Dieu, un enfant du bon Dieu.